Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
C'est une grosse erreur, parce que comme je le dis, ça n'existe pas la perfection. Si on atteint l'imperfection, on ne prendra jamais la parole.
C'est justement vos imperfections qui vous rendent humain. Les personnes détesteraient une personne parfaite.
C'est normal d'avoir peur. C'est normal de ressentir des émotions négatives. Mais les émotions négatives sont beaucoup trop fortes par rapport aux conséquences d'avoir un retour négatif.
Je pense que souvent, on a tendance à minimiser ce qu'on fait. Et quand quelqu'un le voit, il se dit « Mais attends, t'as fait ça, mais c'est exceptionnel, mais pourquoi t'en parles pas ?»
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badeau.
Très heureux de vous retrouver sur BFM Business pour le podcast des indépendants, saison 3, épisode 5. Un épisode dans lequel on va prendre la parole parce que plus que jamais, c'est nécessaire pour porter son activité. Je dis plus que jamais comme si c'était seulement une question de réseaux sociaux, mais non. Prendre la parole, ça a toujours été clé pour entreprendre. Mais concrètement, ça veut dire quoi prendre la parole et comment s'y prendre? L'objectif de cet épisode est clair, faire que vous preniez la parole après l'avoir écouté. Et pour atteindre cet objectif, 4 invités.
Romain Bouvet, docteur en psychologie sociale et cognitive, ancien chercheur et entrepreneur. Clémentine Caillon, cofondatrice de We Are Famous et conseillère en prise de parole en public et en vidéo. Plus de 1000 personnalités et dirigeants accompagnés. Mélanie Gazangel, fondatrice de Glory Brand, qui revendique plus de 300 dirigeants accompagnés pour développer leur réputation, image et influence sur LinkedIn. Quatrième et dernière invité, Jean-Corentin Poisson. Indépendant, expert en pitch et prise de parole auprès des dirigeants, plus de 1800 personnes formées.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors je voulais commencer cet épisode en précisant que quand on parle prise de parole, on ne parle pas forcément réseaux sociaux. Parce qu'il y a un peu cette idée-là, ok, c'est encore un épisode qui va nous expliquer comment prendre la parole sur LinkedIn ou sur Instagram. On va voir que ça va beaucoup plus loin. Jean-Corentin.
La première pensée de l'entrepreneur, c'est les réseaux sociaux, c'est se dire « je veux parler tout de suite à 1000 personnes ». Mais en fait, avant de parler à 1000 personnes, bah, il faut parler à 1, 2, 3 personnes. Il faut tester sa prise de parole. C'est-à-dire qu'on va choisir les mots, on va les expérimenter auprès de sa famille, auprès de ses amis, auprès des gens qui nous entourent. Parce que c'est comme ça qu'on va voir si les gens comprennent ce qu'on fait, si on arrive à les convaincre de l'intérêt de ce qu'on fait. Et donc, bah, ouais, il faut prendre la parole de façon naturelle auprès de tout le monde.
Ça, c'est extrêmement concret, extrêmement pratique. Parler de ce que vous faites, parler de vos idées, tester votre pitch auprès de votre entourage. Clémentine.
Je suis complètement d'accord avec Jean-Corentin. En fait, souvent, on a tendance à se dire la prise de parole en public, c'est forcément une conférence, c'est forcément devant beaucoup de monde. Alors qu'en fait, vous allez dans une boulangerie acheter une baguette, c'est une prise de parole en public. En fait, il faut désacraliser aussi la prise de parole. C'est s'entraîner chaque jour, un petit peu. Il y a des techniques à mettre en place. Et en fait, c'est le faire petit à petit, en fait. C'est comme ça qu'on s'entraîne, qu'on apprend à prendre la parole.
Ça, c'est un point qui m'a beaucoup marqué quand on a préparé cette émission, c'est que vous êtes tous d'accord sur le fait que finalement, c'est un entraînement au quotidien. C'est pas une grande décision qu'on prend, tout d'un coup, j'ai décidé de prendre la parole. Non, c'est de se dire, je vais peut-être l'intégrer davantage dans mon quotidien, quand je vais voir de la famille, des amis, etc., je vais tester un peu, pitcher, etc., prendre un peu le réflexe de présenter plus souvent ce qu'on fait. Jean-Corentin.
Quand on aborde le sujet de notre entreprise, ça nous permet aussi de tester l'idée. Et donc, moi, c'est ce que je fais quand j'ai un projet de formation, quand j'ai un projet tout court d'ailleurs, je vais en parler à ma femme. Je vais voir ce qu'elle en pense, même si c'est pas ma cible, elle va peut-être me donner 2-3 idées, me dire en fait là j'ai pas compris ce que tu voulais faire. Donc il faut tester au quotidien une idée avant de la mettre en œuvre.
Clémentine.
Je suis complètement d'accord avec toi. Surtout, moi je dis souvent à mes clients, testez avec vos enfants. J'appelle ça le pitch for kids. Mais en fait, si tu testes avec tes enfants et si tes enfants comprennent tout ce que tu fais, quel est le but de ton entreprise? À quoi ça sert? En fait, c'est sûr que tout le monde comprend.
C'est vrai que c'est l'une des erreurs. Alors après, ça aborde un autre sujet, de ne pas parler suffisamment de ce que l'on fait autour de soi et donc de ne pas suffisamment tester aussi auprès de son entourage son idée. Mais sur la question propre de la prise de parole, c'est vrai que c'est un vrai entraînement finalement de s'adresser à son entourage, on l'a dit. Et pourquoi, Romain, toi qui es docteur en psychologie sociale et cognitive, pourquoi est-ce qu'on a peur de prendre la parole? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas la prendre comme on la prend là finalement.
C'est une très bonne question. Si on pose la question à des personnes, pourquoi avez-vous peur de prendre la parole? La première cause, c'est la peur du jugement, la peur d'être rejeté, d'avoir des retours négatifs. Il faut savoir que dans notre cerveau, la peur du rejet, c'est une des douleurs les plus intenses qui est vécue. Exemple, il y a une soirée, il y a des amis, il y a tous vos amis, mais vous n'êtes pas invité. on va ressentir cette douleur qui est de rejet. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi notre cerveau nous envoie un signal de danger, pourquoi cette douleur qui est proche de la douleur physique, hein, dans notre cerveau, il y a des zones qui s'activent qui sont liées à la douleur physique. Quand on était chasseur-cueilleur, on vivait en groupe. Et quand on était rejeté par le groupe, c'était un signal de mort, parce qu'on était isolé, donc survivre seul, c'était difficile. On va garder ce mécanisme-là jusqu'à aujourd'hui. Donc la peur d'être rejeté, ça active cette douleur de danger. Donc c'est très irrationnel finalement.
Donc finalement, ce que tu nous dis, Romain, c'est que c'est normal d'avoir peur de prendre la parole.
C'est normal, mais à la fois irrationnel, parce que cette peur, elle est perçue par notre cerveau comme trop intense. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de ressentir des émotions négatives, mais les émotions négatives sont beaucoup trop fortes par rapport aux conséquences d'avoir un retour négatif.
Et l'une des forces, c'est de faire les choses sans penser finalement aux critiques, en se disant « je fais les choses ». Tu me disais, Mélanie, j'ai toujours fait les choses sans me demander ce que les autres pensent.
Comme si on se mettait un bandeau sur les yeux et on oublie tout ça. Et puis on se dit « bon, allez, j'y vais ». Et on fait petit à petit, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, Clémentine, d'aller faire un pitch devant ses enfants. Moi, ce que je recommande souvent, c'est même de prendre la parole. Moi, comment j'ai commencé, je prenais la parole devant mon miroir et je me regardais. Et en fait, du coup, tu t'affrontes. En te regardant devant le miroir, tu t'affrontes en train de parler et t'apprends à maîtriser
la gestuelle, etc.
Ta façon de parler, ton sourire, ton visage, etc. Et tu prends confiance et tu commences à t'aimer. Parce qu'il y a aussi un sujet sur l'amour de soi-même. Et quand on apprend à s'aimer soi-même en se regardant dans le miroir, après on peut commencer à faire des vidéos, on peut commencer à aller pitcher en événements, etc. quoi.
Clémentine.
Mais je suis complètement d'accord avec toi, Mélanie. Je pense qu'il faut vraiment passer à l'action. Et franchement, si j'ai un seul conseil à donner, passez à l'action, osez faire ce premier post, cette première prise de parole en public, cette première vidéo, parce qu'en fait, elle ne va pas être incroyable. On va pas se mentir, elle ne va pas être incroyable, mais ça va être la première fois. Et en fait, ça va vous permettre, si vous restez constant, de progresser, de vous améliorer. Et en fait, ce n'est qu'une progression.
Et ça va même encore plus loin, parce qu'on l'a dit en préparant cette émission, oui, parce qu'on prépare beaucoup les émissions, ça permet de prendre de la hauteur par rapport à son projet. Jean-Corentin ?
Oui, effectivement, la prise de parole, ce n'est pas que de la communication, c'est aussi de la réflexion. Comme tu le dis, on a préparé l'émission, et ben en fait, il faut aussi préparer toute prise de parole. Quand je prépare une prise de parole, je vais penser à mon message, pourquoi je prends la parole, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire, et ça nécessite d'être clair sur ce qu'on fait et sur ce qu'on veut faire. Donc, ben, il faut que je réfléchisse à tout ça avant que je clarifie mon message et mon objectif.
Mélanie.
Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quand on prend la parole, plus on va passer à l'action, plus après on va créer un sentiment de satisfaction et de fierté de soi-même. Et ce sentiment-là, ça nous donne encore plus envie de passer à l'action, etc. Et souvent, on se rend compte que quand on prend la parole, que ce soit sous format vidéo, en événement ou autre, on se rend compte que les personnes, en général, elles sont super réceptives, elles sont super positives, elles adorent ce que vous faites. Et c'est là qu'on se dit, mais attends, je peux faire plus, je peux faire mieux et je peux continuer. Mais dès qu'on s'arrête, c'est fini. Et la peur, elle revient, on se fait submerger.
Et Mélanie, tu me disais aussi quelque chose en préparant cette émission que je trouve extrêmement juste, c'est qu'aussi, par exemple, quand on se montre, quand on s'exprime, etc., on crée un lien déjà avec ses prospects aussi.
Ouais, c'est énorme le lien qu'on crée. Moi, je sais que ça m'arrive souvent, parce que moi, je fais beaucoup de vidéos sur LinkedIn, et quand j'arrive en call avec des prospects ou quand je vais à un événement, on me dit « Hey, comment tu vas ?» Comme si on me connaissait, alors que pas du tout. Parce que, et j'ai vu la différence, en fait, avant, quand je faisais des posts texte avec des photos. Et maintenant, quand je fais des vidéos, je vois totalement la différence parce que les gens ont l'impression de te connaître. Ils ressentent ton énergie, ta façon de parler. Ils ressentent tout, en fait. Et c'est là qu'ils apprennent vraiment à créer un lien avec toi, en fait, naturellement.
Jean-Corentin.
Oui, en fait, c'est le... Alors ça, je pense que Romain t'en parlera peut-être mieux que moi, mais c'est la question du biais de simple exposition, où en fait, plus on voit quelqu'un, plus on a l'impression d'être proche de lui. Là, il y a autre chose, c'est une des cyclées de l'influence de Robert Cialdini, c'est la sympathie. Si j'apprécie quelqu'un, je vais plus facilement me laisser convaincre, donc potentiellement, je vais plus facilement travailler avec lui. Mais je vais peut-être laisser Romain enchaîner là-dessus, je me permets
oui,
de faire le passeur.
Oui, et puis il faut pas non plus sortir du sujet de l'émission, finalement, parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qui compte, c'est la forme. Et nous, ce qu'on veut effectivement aussi, c'est de parler du fond, parce que c'est là l'idée aussi de prendre la parole. Et c'est vrai que la vidéo, c'est bien, mais par exemple, moi, je vois, on peut très bien se dire juste le fait de se montrer. Et finalement, on ne dit pas des choses hyper intéressantes, parce qu'en fait, on est concentré sur l'image qu'on renvoie. C'est ça qui compte. Mais tu voulais rebondir sur autre chose, Romain. Ça m'arrive de partir. Peut-être que je parlerai de la météo tout à l'heure. Hein, ne soyez pas étonnés. Hein, c'est vraiment...
En effet, en fait, le fait, par exemple, d'être en vidéo, Mélanie en vidéo. Alors, la vidéo, c'est quand même très vive hein, pour le cerveau. Ça va donner un effet aussi d'autorité. Quand je vois des personnes, souvent j'ai des collaborateurs, ils ont une chaîne YouTube, je dis « Ah ben elle est youtubeuse ou youtubeur », ils voient de suite, et même s'ils ont 50 000 abonnés, de suite ils sont en vidéo. Ça donne un effet d'autorité que la personne est un peu médiatique. L'effet d'autorité va beaucoup jouer sur le message, parce que quand on va prendre la parole n'est pas équitable. Le même message dit par la même personne n'aura pas la même valeur. Quand Anthony Bourbon prend la parole sur LinkedIn, il peut mettre une citation inspirationnelle, il va avoir 3000, 4000 likes. La même citation donné par quelqu'un d'autre, 3 likes, 5 likes, 6 likes. Donc il y a l'effet messager qui va jouer. Et l'effet de vidéo joue beaucoup. J'ai bien vu, moi, la différence entre la vidéo et le texte sur LinkedIn. Donc tout ça, ça va jouer à l'impact sur le message.
Vous êtes d'accord tous les quatre sur le fait que nos auditeurs devraient se montrer en vidéo, Clémentine ?
Pour moi, la vidéo, c'est le meilleur médium. C'est-à-dire que, comme tu disais, Mélanie, on voit ton énergie. On voit la manière dont tu parles. Donc en fait, les gens, ils te connaissent déjà. Pour ton business, c'est hyper important parce que dès qu'on va venir te voir pour prendre rendez-vous, même si c'est un prospect, il aura déjà plus ou moins envie déjà de travailler avec toi. Tu as déjà énormément du chemin de fait. Et tu n'es pas obligé de parler de ton business, tu peux parler de plein de choses.
Oui, ça je confirme. Hein, pour le coup, faire pas mal de vidéos et avoir une boîte qui fait des vidéos. C'est que quand les gens prennent rendez-vous, ils ont l'impression de vous connaître. Il y a tout de suite ça brise la glace, il y a un capital sympathie, puis ils sont même contents de pouvoir vous parler. Alors que vous êtes quand même là pour leur vendre un truc. Ce qui vous met quand même dans une position assez confortable. Mélanie.
Et au-delà de ça, même quand on voit Instagram, les réels, TikTok, les vidéos.
Mais c'est pas trop, justement. Parce que les auditeurs qui vont nous écouter vont dire « Ok, ils sont sympas avec leurs vidéos, mais moi, j'ai pas envie de me mettre en vidéo. Il y a trop de vidéos. Ok, donnez-moi des clés. Expliquez-moi que c'est important de prendre la parole. À quoi ça peut me servir sans faire de vidéo, Romain ?»
Alors, je vais rebondir, en effet. Parce que là, si on dit à tout le monde de se lancer en vidéo, c'est extrêmement difficile. Parce que je vais parler un peu pour mon camp. Moi, je suis plutôt introverti, donc la vidéo c'était déjà extrêmement dur. Et un autre point important, parce qu'on parle de prise en parole, ça peut donner l'impression que il faut être super bon en prise en parole, que c'est un peu inné. Alors ça, il faut revenir dessus. Hein. Moi, je n'articulais pas du tout, je parle super vite, je remplis des salles pourtant de 1500 personnes aujourd'hui. J'ai commencé sur LinkedIn, pas avec la vidéo, mais avec des carousels et avec des posts écrits. Et c'est un point important parce que c'est pas évident la vidéo pour des gens qui sont totalement introvertis, qui n'ont pas cette énergie-là de s'exposer. C'est un travail sur soi qui
j'aime bien l'entendre.
Colossal.
J'aime bien l'entendre parce que pour rassurer les auditeurs, parce que moi-même qui fais de la télévision, etc., je fais des vidéos de contenu pour mon entreprise et ils étaient là à me dire « Ouais, mais l'image, mais ça va pas. » Enfin, à remettre tout en question alors que j'ai l'habitude. Donc quand on n'a pas l'habitude, c'est quand même pas simple. Clémentine.
Ça se travaille, ça se construit. Moi, je dis souvent, par exemple avec We Are Famous, on dit aux filles, aux femmes qu'on accompagne, de se filmer. Moi, je leur dis, filmez-vous quotidiennement. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler une personne, vous faites une vidéo, vous vous filmez, mais vous vous filmez, vous ne faites pas un FaceTime, hein. Vous vous filmez, vous parlez, comme ça va vous permettre de vous regarder une fois, deux fois, trois fois, et à la fin, vous vous dites, bon, je vais peut-être envoyer cette vidéo pour avoir ma baguette de pain, parce qu'il y a un moment, je ne vais pas l'avoir. Donc en fait, ça va les faire passer à l'action. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que petit à petit, vous allez faire la paix avec votre image. Parce que la vidéo, c'est ça aussi. C'est se réconcilier avec son image et avec soi.
Jean-Corentin ?
Ouais, je veux appuyer là-dessus. C'est que la prise de parole parfaite, il faut bien comprendre qu'elle n'existe pas. Quelqu'un peut avoir bossé sa prise de parole pendant des années, ça ne sera jamais parfait. J'ai eu la chance d'écrire des articles avec un avocat qui a, je crois, 72 ans. Il a enseigné la rhétorique aux avocats pendant 40 ans à l'école de formation du barreau. À chaque fois que je le vois, il continue à me dire « J'ai appris un truc génial sur la rhétorique, j'ai appris un truc génial sur la prise de parole. » Il lit des bouquins en latin, en grec, puisque c'est plus simple. Et à chaque fois, il me dit « Mais j'ai encore découvert un truc, etc. » Ça fait 40 ans, presque 50 ans que le gars étudie ça. Et il continue à chercher à s'améliorer. La prise de parole, c'est un processus continu. On peut toujours s'améliorer. Moi, je continue à le faire. Je continue à étudier, à apprendre, à pratiquer. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur.
Est-ce que tu dirais, Jean-Corentin, qu'il y a des perfectionnistes qui ne prennent pas la parole parce qu'ils sont trop perfectionnistes ?
Ouais, et c'est une grosse erreur. Parce que, comme je le dis, ça n'existe pas, la perfection. Si on atteint l'imperfection, on ne prendra jamais la parole.
La parole n'est pas parfaite. Le fait de communiquer, c'est de la spontanéité aussi. Donc, c'est des « c'est des tics de langage. Et c'est pas grave, c'est ça aussi, c'est l'imperfection.
C'est humain.
C'est humain. Mais en fait, prenez la parole, rien n'est parfait dans la vie. Faites des petites actions quotidiennement. Entraînez-vous. Et c'est que de l'entraînement, moi je suis convaincue de ça. Et surtout, je pense aussi qu'on a tous une histoire à raconter. Quelque chose à raconter. Et c'est pas parce que votre histoire elle est pas exceptionnelle ou que votre vie n'est pas exceptionnelle.
Selon vous.
Oui, en plus c'est souvent selon soi. Mmh. Je pense que c'est un biais cognitif, alors je ne sais pas le nom. Mais je pense que souvent, on a tendance à minimiser ce qu'on fait. Et quand quelqu'un le voit, il se dit « Mais attends, t'as fait ça, mais c'est exceptionnel, mais pourquoi t'en parles pas ?»« Ah bon, mais pourtant j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose. » Je me rappelle, j'avais fait un portrait d'agriculteur il y a une dizaine d'années pour le Crédit Agricole, je sais pas si on a le droit de citer des marques, mais...
Si, si.
Et en fait...
Il y aura un gros bip, mais il n'y a pas de souci.
Okay. Et en fait, si tu veux, ce paysan me disait « Bah en fait, j'ai pas une histoire exceptionnelle, moi j'ai récupéré la ferme de mon arrière-grand-père. » Et il commence à me raconter. Et je dis « Mais c'est la transmission, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-faire qui se transmet de génération en génération. » Puis à l'époque de son arrière-grand-père, il n'y avait pas les pesticides, il n'y avait pas les machines. Donc en fait, c'est la connaissance de la terre et c'est plein de choses qui se transmettent comme ça.
C'est intéressant parce qu'on a tous tendance à banaliser notre histoire, à banaliser nos épreuves, à les normaliser. Et c'est vrai que quand on les pose, ne serait-ce que d'imaginer, de chercher des sujets, ce sur quoi on pourrait parler, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à dire et que ça pourrait porter notre business, parce qu'encore une fois, on est sur BFM Business et on est là pour porter son activité, Mélanie.
Et au-delà de ça aussi, pour revenir sur la perfection, les gens aiment vos imperfections. C'est justement vos imperfections qui vous rendent humain. Les personnes détesteraient une personne parfaite. c'est comme les personnes qui vont faire des vidéos. Un exemple, tu fais des vidéos, tu montes tout, tu fais vraiment un montage parfait, etc. Alors que demain, tu fais une vidéo un peu en freestyle, tu parles, tu dis ce que j'ai envie, ça va mieux marcher que les autres, parce que c'est freestyle, parce que les gens, ils te voient de manière authentique, tu sais pas, t'as des eux, t'as des voilà, t'as des petits ratés, etc. Et c'est ça que les gens, ils aiment, c'est l'imperfection qu'ils aiment, parce que eux aussi sont pas parfaits, et si vous projetez une image trop parfaite, ben vous allez devenir
inaccessible, vous allez, pour le coup.
Ouais, inaccessible, et ça attire pas l'inaccessibilité. Ouais. Pour le coup, sur ce coup-là, ça n'attire pas. Justement, ce qui va attirer, c'est justement de se rendre authentique, enfin d'être authentique.
Jean-Corentin ? En fait, sur ce sujet-là, j'ai l'impression que ma vie est banale, que j'ai rien à raconter. Et c'est très souvent le métier aussi des personnes avec qui on travaille, je pense un peu de nos métiers, justement d'identifier ces sujets-là qui sont intéressants, parce que la personne, c'est ce qu'elle vit. Moi, quand je raconte mon histoire, j'ai l'impression que c'est pas forcément passionnant, intéressant. Quand j'en parle à des gens qui me connaissent pas, ah oui, tu fais ce métier-là, c'est ouf, avec qui tu travailles, etc. Tout de suite, ça les intéresse. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de prendre la parole avec d'autres, c'est de voir ce qui les intéresse et de voir sur quoi ils creusent, sur quoi ils vont poser des questions. Ça, on sait que ça peut intéresser d'autres personnes.
Mélanie ?
Moi, souvent, je suis confrontée à des dirigeants d'entreprises qui ont monté des grosses entreprises, qui font des conférences devant des centaines, des milliers de personnes. Et quand c'est pour prendre la parole en ligne, par exemple, bah, ils n'osent plus.
C'est fou, ça. Hein.
Et c'est dingue.
C'est quoi,
parce
c'est
que...
la peur vraiment
mais
du regard, elle est folle.
C'est la peur
hein.
du regard. Et ce qu'ils me disent tout le temps, c'est oui, mais j'ai rien à raconter, j'ai pas envie de me mettre en avant, c'est mon entreprise que je veux mettre en avant, etc.
Ouais, ils ont peur de passer pour des égocentriques, quoi.
Et souvent, ils vont dire, ils vont trouver un défaut. Ils vont dire, oui, mais je suis ça. Par exemple, j'ai un client qui est marocain. Il me dit, oui, mais je suis marocain. Donc, je vais montrer plutôt ma collaboratrice. Je dis, mais non, justement, le fait que tu sois marocain, c'est ton histoire. C'est ça qui est inspirant, qui va inspirer les gens. Il vient du Maroc, il a ouvert sa boîte en France. Enfin,
on n'est pas tous
incroyable.
Racistes. Y a pas, tu peux prévenir, il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont toujours trouver... C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a beaucoup qui vont trouver une excuse et me se dire, ah ben non, je ne peux pas parce qu'il y a ça. Mais non, au contraire. Ce qui plaît, c'est ça.
Romain ?
Oui, je comprends totalement, parce que moi, je suis partie de ces gens-là qui parlent très peu de soi sur LinkedIn. C'est aussi ça que j'ai apprécié, parce que je reçois énormément de demandes des gens qui disent ouais, « je veux faire comme ça sur LinkedIn », parce que j'ai plutôt une bonne audience, sans faire de selfie, sans parler de moi, mais en transmettant des idées. Moi, la prise de parole, c'est surtout ça, transmettre des idées. Avant, bon, parler de soi, c'est cool, je ne suis pas contre, ce n'est pas quelque chose que je vais dire de ne pas faire. Mais moi, l'essentiel, c'est prise de parole. OK, mais quelle est l'idée que tu veux partager sur le marché ?
Et ça, c'est important, Romain, parce qu'effectivement, c'est aussi toute la... Il ne faut pas faire la confusion entre se raconter et parler que de soi. Il faut toujours trouver un lien, finalement, avec une chose, une idée à partager pour que ça soit bien reçu aussi.
Aujourd'hui, ça commence à être assez important parce qu'on le voit bien. Le but de prendre la parole, donc de transmettre des idées, encore une fois, je suis plutôt sur la transmission des idées, c'est de faire des ventes pour son entreprise. Moi, je génère pas mal de chiffre d'affaires, rien que sur LinkedIn, mes clients également. On parle pas beaucoup de soi. Enfin, vous verrez pas beaucoup de choses sur moi, sur LinkedIn, plutôt Insta, mais sur les stories. Parce que le but, c'est de vendre. Et parler de soi, ça fait attirer des gens, c'est aucun problème. Mais ça va pas faire vendre. Moi, là où je travaille, j'arrive à me différencier, c'est de transmettre des idées uniques qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui va dire « Waouh, ok, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'en savoir plus sur cette personne et sur son contenu. Ça, c'est un peu mon angle aujourd'hui sur... Enfin, c'est mon angle sur LinkedIn.
Oui, c'est intéressant et je pense que c'est ce qu'on attend tous de voir sur LinkedIn aujourd'hui, c'est finalement des contenus qui soient des contenus professionnels. Il y a une tendance un peu... on a un peu critiqué quand même cette tendance où chacun se raconte, où ça devient presque un journal intime. Clémentine.
L'information que tu vas choisir, c'est un choix. Tu fais un choix dans ton message, donc tu te racontes aussi à travers les choix que tu fais.
C'est pas forcément ce que les gens vont comprendre. Parce que quand on parle, il faut parler de soi sur LinkedIn, ça va bloquer les gens. Ils disent, mon histoire n'est pas forcément intéressante, ça va être dur. Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors que commencer par, surtout qu'on n'est pas connu, par un contenu unique sur les réseaux, j'ai accompagné une personne qui est DSI, donc dans l'informatique. Il a commencé à partager des choses ultra précises en cybersécurité. Il a cartonné et après, il a commencé à parler de soi. Mais je pense qu'il vaut mieux plutôt attaquer justement pour rentrer dans le marché par des éléments qu'on peut apporter, ce qu'on appelle des insights, où on se dit « Ah ouais, ça c'est génial !»
Prenez la parole sur votre entreprise, sur votre activité, sur vos produits, Jean-Corentin.
Pour compléter là-dessus, en fait, pour moi, c'est un bon équilibre entre trois points. C'est les trois piliers de la rhétorique, mais je vais le faire sans trop complexifier. Ethos, pathos, logos. Ethos, c'est qui
très
parle.
Très clair, très clair.
Voilà. On parlait chinois tout à l'heure. Ethos, l'orateur, qui parle, en tant que quoi je parle, qui je suis. Le pathos, c'est l'émotion. Donc, c'est plutôt ce qu'on va faire en racontant des histoires, en amusant, en divertissant. Et le logos, c'est la connaissance, le savoir, le rationnel. Ce que tu fais effectivement beaucoup en apportant de la valeur, du savoir, de la connaissance à tes abonnés, à ceux qui te suivent. Et en fait, pour moi, c'est un tout. Il faut les trois. Qui je suis, qu'est-ce que je fais, et ben, je vais passer un bon moment avec toi. Donc, j'ai envie de travailler avec toi. Et je pense que c'est ça qui va faire vendre aussi sur LinkedIn, mais aussi en dehors. Dans une prise de parole, il faut ces trois piliers.
Clémentine ?
C'est aussi l'expertise. En fait, au début, tu commences par parler de ton expertise. Tu parles aussi de toi. Tu te racontes à travers de ton parcours. Et puis ensuite, c'est ça, c'est comment tu vends cette expertise, mais parce que c'est toi aussi. C'est parce que les gens ont envie d'être accompagnés par toi. Et l'expertise que tu amènes.
Après, moi, quand j'ai commencé, j'avais 0 abonné il y a 2 ans. C'est-à-dire que personne ne me connaissait. Et j'ai publié, et puis ça a marché, ça a explosé au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, j'ai 55 000 abonnés. Je fais 1 million de vues par mois, que avec des carousels et des posts. Donc je fais très peu de vidéos encore, mais ça va arriver. Et c'est ça qui est important, c'est que je l'ai construit cette autorité après coup. Avant, j'avais aucune valeur. C'est-à-dire que les gens likaient. Et aujourd'hui, je suis invité. Alors c'est bizarre, on ne me dit plus, on m'invitait parce que j'avais un doctorat. Maintenant, on m'invite parce que j'ai des abonnés sur LinkedIn, en conférence. Bon, c'est nouveau.
Donc on bah non mais ça va quand même un peu plus loin, Romain, c'est parce que tu fais des contenus intéressants.
Ouais. J'ai construit cette autorité. Donc tout le monde peut construire une autorité et ce que je conseille, c'est de construire une autorité en commençant dans une niche, quelque chose d'ultra précis. C'est beaucoup plus facile. On ne rentre pas sur LinkedIn ou Instagram comme en 2020. Et ça, même sur les réseaux, même pour les entreprises, c'est la même chose. Il faut entrer dans des niches, des choses très spécialisées. Et au fur et à mesure, on va vous donner cette expertise quand vous allez apporter ce qu'on appelle des insights. Un insight, c'est un... la dopamine, c'est de dire waouh, ok, ça je le savais pas.
C'est intéressant parce qu'effectivement, moi j'ai toujours remarqué que quand on arrive à partager un contenu qui apporte vraiment de la valeur, comme on dit, quand on prend la parole pour apporter une expérience, une expertise, et qu'on fait découvrir quelque chose aux personnes, bah tout de suite c'est mieux reçu. Enfin, ça intéresse, il y a des réactions, il y a de l'engagement. C'est un peu ça la clé, quoi. Mais Clémentine, toi, t'es plus de dire, n'hésitez pas quand même à vous raconter personnellement.
En fait, c'est les deux, je suis complètement d'accord avec Romain, c'est-à-dire que c'est toi avec où t'en es. Où t'es dans ton histoire, comment tu te sens. Si t'es introverti et que tu te sens pas à l'aise de parler de toi, commence par parler de ton expertise. Puis ensuite, tu vas commencer à te raconter parce que tu vas prendre confiance en toi et tu vas dire « Ok, ben j'ai une histoire à raconter ». Et c'est comme ça que ça se passe, c'est par des petits pas. Et je pense que toi aussi, au début, tu commences par parler de ton expertise et maintenant, tu commences à parler de toi. Et bientôt, tu vas te mettre en vidéo. Et c'est des pas, en fait. Ça prend le temps que ça prend. C'est chacun son rythme, il ne faut pas se comparer. Et c'est en étapes, pour moi.
Alors c'est vrai qu'on est très concentré sur les réseaux sociaux, hein, quand même, depuis le début de cette émission.
Désolé,
Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est là où on prend la parole. Donc le sujet, c'est comment prendre la parole le plus efficacement possible. C'est forcément sur les réseaux sociaux. On le voit avec Romain qui a explosé, avec aujourd'hui 55 000 abonnés et 1 million de vues par mois, alors qu'il y a encore quoi, 2 ans ou 1 an tu...
Personne.
Il n'y avait personne. Donc c'est extrêmement puissant, mais il y a d'autres endroits, et moi je sais que j'ai travaillé aussi là-dessus, sur par exemple le networking. Essayez de sortir. Rendez-vous compte, effectivement, en rencontrant d'autres entrepreneurs, si vous êtes clair, voilà, et cassez un peu cette peur de prendre la parole aussi sur le terrain, Jean-Corentin.
Tout à fait. En fait, quand on se lance, c'est même la première chose à faire. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait un tour de mon répertoire sur mon téléphone et je me suis dit, ok, telle personne, il bosse à tel endroit, je peux lui proposer mes services. Telle personne, il bosse à tel truc, etc. Et en fait, j'ai commencé par passer des coups de fil. c'est la première prise de parole du dirigeant, c'est passer un appel. Est-ce que t'as pas besoin de trucs dans ta boîte? Est-ce que t'as pas quelqu'un qui peut, enfin, qui me présente? Est-ce que, etc. Et on présente comme ça. Et j'ai pas besoin de parler à 1000 personnes, j'ai besoin de parler aux bonnes personnes.
D'ailleurs, très bon exercice. Enfin, exercice que je conseille, c'est la prospection téléphonique. Parce qu'en termes de prise de parole, de test de pitch, etc., moi, j'en fais beaucoup. Et ça fonctionne bien. On décroche beaucoup de rendez-vous. Et c'est vrai que ça a été un apprentissage à plein de niveaux, Mélanie.
Moi, j'ai fait la prospection pendant 2 ans quand j'étais conseillère en gestion de patrimoine. Je faisais ça toute la journée. J'ai détesté, clairement. Et avant de commencer à faire de la prospection téléphonique, j'en avais jamais fait. Et j'étais face à mon téléphone et j'avais une boule ici. Mais impossible de prendre le téléphone, de taper le numéro et d'appeler. La peur de prendre la parole, de me faire rejeter. On en revient à la peur du rejet. Hein. La peur que la personne dise non, me raccroche au nez, m'insulte. Et après, je faisais ça toute la journée. Je me faisais insulter toute la journée. On me disait non toute la journée. Je me prenais des râteaux toute la journée. Et au final, ça m'a donné confiance en moi. J'étais à l'aise et c'est devenu un jeu. Donc, je ne l'ai pas aimé. Mais après, c'est devenu un jeu. Ah, et j'ai commencé à prendre du plaisir. Et c'est exactement pareil quand on prend la parole. Par exemple, je me rappelle une fois, j'ai été à un sort de BNI. Il y avait 50 personnes et il fallait pitcher devant tout le monde. Je n'avais jamais fait ça. Eh bien, le fait de le faire, après, tu te sens bien. Et surtout, en plus de ça, parce qu'on parlait beaucoup des réseaux sociaux, mais si tu ne te présentes pas en vrai dans des événements ou autres, tu n'existes pas. Hein. Sur les réseaux, tu peux exister, etc. Mais si tu n'apparais pas en vrai, les gens, concrètement, ils ne te connaissent pas. Et en fait, c'est quand tu vas confronter les gens en vrai, tu vas ressentir les énergies, tu vas pouvoir développer une certaine réputation et ça a beaucoup plus d'impact qu'être seulement sur Internet, seulement en vidéo. On reste des êtres humains à part entière.
Deux choses dans ce que tu dis. Le premier, c'est un jeu. Je pense que c'est la première des choses à se mettre en tête, de comprendre que la prise de parole, que ce soit au téléphone, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on est vraiment dans cette notion de jeu. Est-ce que c'est une méthode, Romain, de se dire c'est un jeu pour dédramatiser, pour y aller plus, de manière plus légère?
C'est une façon de rationaliser. Je ne suis pas vraiment coach en prise de parole sur ça, mais je suis sur la technique plutôt argumentative. Mais je pense que ça peut aider, mais le cerveau va vite nous rappeler qu'il y a des haters, il y a des commentaires négatifs ou des gens qui peuvent être rejetés. Alors, dans les BNI hautes, l'avantage, c'est qu'on peut aller voir, on peut poser des questions. En gros, il y a des techniques plus faciles pour prendre la parole parce que pour prendre la parole dans un BNI, c'est d'aller voir les gens et poser des questions sur qu'est-ce que vous faites. Voilà, ça, vous rentrez dans le réseau facile. Sur les réseaux, plus dur parce qu'on aura peur, justement, même si c'est un jeu. On aura toujours la peur de la conséquence négative des commentaires négatifs.
Mélanie.
Là, en fait, il y a une chose pour prendre la parole qui peut aider, que ce soit en allant en événement ou autre, c'est d'être accompagné. Et quand je dis être accompagné, ce n'est pas forcément prendre un coach ou autre, ça, bien sûr, c'est mieux, mais juste d'avoir, je ne sais pas, un ami qui fait la même chose, qui le fait déjà. Un entrepreneur à côté de soi qui le fait déjà. Et en fait, le voir qu'il le fait déjà, on va se dire « Ah, c'est possible, ça va nous inspirer et ça nous donne plus envie et puis il va plus nous pousser ». Donc, je pense que c'est important d'être juste accompagné.
Ça peut être une technique d'entraînement, de demander à un ami, de demander à de la famille, de ne pas aller tout seul dans les événements. Oui. Par exemple, aussi, il y a une technique sur les réseaux sociaux, c'est de créer un petit groupe où on est sûr d'avoir au moins 5 likes.
Même au-delà de ça, pour revenir sur le réel, sur la prise de parole en vrai, moi, un truc que je faisais beaucoup, hein, c'était tout simplement, quand j'étais étudiant, dans les bars, d'écouter ce qui se passait un peu dans les tables à côté, de m'insérer dans la conversation des tables à côté. Et en fait, on apprend comme ça à aborder les gens facilement, en ayant une petite oreille, en disant « je suis désolé, je me permets de rentrer dans la conversation, j'écoutais ce que vous disiez ». Et en fait, on apprend tout simplement à engager la conversation avec des inconnus. C'est tout simple, mais ça permet d'apprendre à faire le premier pas, et bah, on parlait de network, et c'est comme ça. Ensuite, on peut le faire dans des événements professionnels. Et effectivement, là, d'y aller avec un ou deux potes pour dire bah, « s'il n'y a vraiment personne au début, bah, nous, on va discuter entre nous, et on va se dire, bah, tous, on va tendre un peu l'oreille à droite à gauche, ce qui va nous permettre éventuellement de rentrer dans les conversations sans être la potiche au milieu qui parle à personne.
Ce que j'entends beaucoup là, c'est quand même sortez de chez vous, hein.
Moi,
Clémentine.
Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est marrant, parce que moi, j'ai envie de dire sortez de chez vous, mais allez-y seul. Par exemple, moi, je sais que quand je fais des networking, si j'y vais avec quelqu'un que je connais, je ne vais voir personne. Je ne reste qu'avec cette personne et je ne parle qu'avec cette personne. Alors que le but, c'est justement de s'insérer. Si vous êtes au début introverti, c'est peut-être bien d'aller avec quelqu'un pour vous rassurer. Mais je pense que ça peut être aussi un écueil de rester avec cette personne. Et justement, pas d'aller faire le premier pas pour aller voir des gens, pour parler avec des gens.
Ok, Clémentine. Mais tout le monde n'a pas ta personnalité. Non, mais il y a quand même une question de personnalité. Il y a quand même une question de, tu vois, de caractère. Pour y aller seul dans ces événements.
Moi, je viens de loin aussi. Hein. Moi, je suis qu'une construction de petits pas. J'arrive de très, très loin. Je pense que c'est parce que, justement, au début, tu vas aller parler à une seule personne, même ça va être le serveur, et c'est OK. Et tu vas repartir de la soirée, tu n'auras parlé qu'au serveur. Et c'est OK. C'est pas des grosses actions qu'il faut mettre en place, c'est des petits pas. J'ai pas toujours été extravertie. comme ça. J'ai pas toujours pris la parole. Alors je suis désolée, mais je vais revenir sur les réseaux sociaux. Moi, je prenais pas la parole sur les réseaux sociaux il y a à peine un an et demi.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les auditeurs se disent voilà, ils ont une expertise très bien, mais c'est leur dada, etc. Alors qu'en fait, Mélanie, c'est pareil. Toi, tu prenais pas la parole, ça fait pas si longtemps.
Ça fait à peu près un an et demi que je prends la parole sur les réseaux. Après, bon, j'ai déjà ouvert d'autres pages sur les réseaux où je prenais la parole et que j'ai fermé et autres. Après, j'ai jamais eu trop cette peur, je dirais, sur les réseaux. De prendre la parole, mais j'ai eu cette peur par rapport à la vidéo. Les premières vidéos que j'ai postées, je ne les ai pas postées. Je ne savais rien dire ce que j'ai dit du coup. Mais les premières vidéos que j'ai tournées, je ne les ai jamais postées parce que je ne les aimais pas ou il fallait que je les tourne 100 fois avant de les mettre en ligne. Et encore aujourd'hui, hein, quand je me regarde en vidéo, je n'aime pas la vidéo, mais je la poste. Mais après, je n'aime pas la vidéo mieux qu'avant, mais c'est vrai que c'est dur de s'accepter complètement en vidéo.
J'aimerais qu'on vienne, Clémentine, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 6 minutes, sur des conseils très pratiques. Comment est-ce qu'on prépare une prise de parole? Qu'est-ce qu'on pose?
Je vais vous donner mes techniques à moi, je pense que Jean-Corentin a les siennes, vous avez les vôtres. Donc, moi, souvent, quand j'ai des clients, je leur conseille d'écrire leur entrée, leur phrase d'accroche et la conclusion, d'avoir un plan très structuré, avec des idées, apprendre les transitions, mais pas d'apprendre par cœur. Parce que ce que je vois comme écueil, c'est que les gens restent avec leurs notes, donc ils ne connectent pas avec l'auditoire, ils ne regardent pas leur auditoire. Et puis, en fait, personne ne connaît vos notes. Personne ne sait ce qui a marqué. Donc, si vous vous plantez, ce n'est pas grave. Il n'y a que vous qui le savez. Vous n'êtes pas en train de réciter du Molière. Personne ne va savoir, tiens, il a loupé ses passages. Donc, faites, essayez. Et surtout, je pense que c'est parce que vous êtes en interaction avec les gens, que vous les regardez, que vous les questionnez, que vous créez ça, que justement, vous devenez mémorable.
Faut connecter.
Ouais, faut connecter.
Romain ?
Oui, pour rebondir, totalement raison. Le cerveau ne supporte pas les discours qui ne sont pas conversationnels. Quand tu parlais tout à l'heure, Mélanie, en vidéo, les vidéos, on parle normalement. Alors, ce n'est pas forcément les défauts qu'on aime, c'est parce qu'en fait, le cerveau, il aime bien les conversations classiques, normales. Quand un politicien lit un discours, je les déteste. Je dis, mais insupportable. Alors, les gens, ils applaudissent. Ouais, c'était génial, c'était totalement nul. On est tous hypocrites et c'est insupportable. Donc, en effet, il faut vraiment avoir ce côté qu'on appelle conversationnel, mais aussi à l'écrit. Si vous prenez les posts LinkedIn qui marchent le mieux, ils écrivent comme s'ils parlaient à l'oral. Parce que c'est beaucoup plus naturel. Ça, c'est un point super important.
Romain, docteur en psychologie sociale et cognitive, est-ce que tu as des techniques très concrètes pour nos auditeurs pour prendre la parole?
Alors, je vais être assez radical toujours pour les indépendants. Pour moi, prise de parole, alors, ça ne serait pas allé pour moi dans les bars, tout ça. Surtout, alors, moi, c'est la pire chose que vous pouvez me dire. je ne vais jamais me lancer. Non, pour moi, la première action d'un indépendant pour prendre la parole, c'est de transmettre ses idées. Donc, la question qui doit se poser, c'est OK, mais comment on transmet une idée? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et ça, on a des données qui sont assez précises. Le premier conseil, le plus important, alors bien sûr, connaître son audience avant, c'est indispensable, connaître ses frustrations, ses douleurs, mais ensuite de passer une idée de la façon la plus simple possible. Alors ça veut dire quoi, simple? Le mot simple, il n'est pas bon en fait. Je vais montrer comment marche le cerveau. Si je te dis 2 plus 2, automatiquement, vous tous ici, 4 est arrivé à votre esprit. Vous ne l'avez pas calculé. C'est ce qu'on appelle le système 1. Mais si je dis 17 fois 24, il n'y a rien qui arrive à votre esprit. Donc on voit bien ici qu'on a bien 2 systèmes de pensée. Mais il faut parler au système 1. Si je dis Trump, immigration, on a tous des mots qui arrivent à notre esprit. Mur, chien, chat. Si je dis Clinton, immigration, rien arrive à votre esprit. Trump parle à ce qu'on appelle à l'inconscient, au système 1. Donc le plus important, numéro 1, c'est activer des images mentales. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une image mentale quand on parle. C'est le plus important.
Pour faire du Trump.
Par exemple, Apple le fait très bien. Apple, avec l'iPod, ils n'ont pas dit 5 gigas. Ils ont dit 1000 musiques dans votre poche. Ça, on a une image, automatiquement. On arrive à l'imaginer. Et ce qu'on arrive à imaginer, même si c'est très rapide, comme le 4, ça peut activer des émotions. Et le secret, ce sont les émotions. Quand vous publiez à l'écrit un carrousel, une vidéo, c'est quelle est la valeur émotionnelle que j'apporte. Et c'est le seul indicateur de performance qui va aujourd'hui prédire la réussite d'une prise en parole. Que ça soit à l'oral, BNI, peu importe où vous voulez, même dans la rencontre, c'est est-ce que j'ai activé des émotions à la personne. Si vous voulez être apprécié, activez des émotions. Parlez d'elle, parlez pas des trucs négatifs, ne soyez pas toxique. Tout est une question d'émotion.
Et encore une fois, Romain, activer des émotions, ça ne veut pas dire se raconter constamment et rentrer dans l'intime.
Totalement. Totalement.
Puisque toi, tu actives des émotions, tes posts marchent très bien. Alors après, il y a une compétence, il y a une spécificité quand même très intéressante. C'est toi qui passionne un peu les gens aussi, hein, il faut le dire.
Alors attention, je pourrais prendre n'importe quel sujet, parce que je le prends pour mes clients, et le transformer en effet passionnant, en appliquant juste l'image mentale, donc compréhension immédiate, ah, je comprends, et les émotions. Et je peux prendre n'importe quel sujet et le transformer en quelque chose de super séduisant. Quand on comprend ces deux mécanismes, qui sont récents, parce qu'avant, on vous parlait à la rationalité, aux émotions, on parlait de cerveau reptilien, qui n'a aucun sens scientifiquement aujourd'hui. Non, on s'en fiche, ça ne marche pas. Parler à la raison, ça veut dire quoi?
C'est les émotions first, quoi.
Émotions, tout est émotion. Un politicien qui parle aux émotions, il gagne. Pas compliqué. Un politicien qui arrive à créer des images comme Trump, il gagne.
Jean-Corentin.
Je suis d'accord avec toi, il faut des émotions. Je me permets juste une petite remarque quand même là-dessus, un petit c'est sur le, malgré tout, le rationnel est important pour lever les freins. Je suis toujours, l'exemple que je prends tout le temps, c'est quand j'ai acheté mes baskets, elles sont canons, vous les voyez pas, mais elles sont canons. En gros, d'abord, je les vois dans la boutique, je ressens une émotion, elles sont canons, je vais être beau gosse, ma femme va les adorer, clairement, ça va être un grand kiff, j'adore. Donc je vais voir ces baskets-là. D'abord, j'avais choisi la boutique, parce que j'ai confiance dans la boutique, les taux dont je parlais tout à l'heure, la confiance, l'autorité. Mmh. Et ensuite, ces baskets-là, je vais pas les prendre juste parce qu'elles m'ont plu. Je vais d'abord vérifier le prix, la matière, est-ce que je peux me les offrir, est-ce qu'elles vont durer, est-ce que c'est les lacets que je veux, etc. Et là, en fait, je vais lever des freins. J'ai envie de les prendre, mais il y a des freins, mon cerveau met en place des freins.
Les freins rationnels. Sont émotionnels.
Alors non, ils sont rationnels. C'est est-ce que j'ai les moyens ou pas.
Parce que vu que tu as un frein, donc tu as une émotion négative qui t'a bloqué, donc c'est émotionnel. Ton frein est émotionnel, il n'est pas rationnel.
Bah oui, non, parce que c'est mon compte en banque qui me dit si oui ou non je peux l'acheter.
Oui, donc c'est émotionnel. T'as reçu une douleur. Quand on va payer quelque chose, automatiquement, quand on va acheter, on a les émotions qui s'activent. Donc là, t'as évalué, c'est le New York Times qui a évalué le produit. Et automatiquement, il y a un frein qu'on appelle le système 2 tout à l'heure qui va arriver, qui va te bloquer, qui va te dire attention, il y a une émotion qui est encore plus forte, c'est de payer. Quand on paye, ça active une douleur dans le cerveau. Et tu fais quoi? Un calcul émotionnel. Et c'est là où tu vas activer ton cortex préfrontal, où en effet, tu vas appliquer un raisonnement qui ne va pas forcément être rationnel. C'est un raisonnement qui peut être totalement émotionnel et irrationnel, car la plupart de nos décisions restent irrationnelles. C'est plutôt comme ça qu'on va le voir. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais le mot rationnel, c'est cette logique. Par exemple, être convaincu par des chiffres. Je ne suis jamais convaincu par des chiffres, je suis convaincu par des émotions. Si tu me dis 200 millions d'enfants à sauver, ça ne va pas me convaincre, parce que je n'arrive pas à me représenter 200 millions,
c'est pas mal quand même. Ça
non, ça ne marchera pas.
Je commence à m'inquiéter.
Ça va marcher si tu dis, elle s'appelle Rokia, elle est malienne et âgée de 7 ans. Mmh. Une personne, parce que tu arrives à te
représenter. C'est l'incarnation, c'est l'émotion.
Parce que tu as une image mentale.
Il nous reste vraiment une minute. Et qui veut réagir par rapport justement à cette question-là émotionnelle, Clémentine?
Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que l'accroche, pour moi, ça doit être un icebreaker. Ça doit être quelque chose pour briser la glace avec ton auditoire.
Et même quand on pitch. Hein.
Oui, surtout quand on pitch.
Ouais, complètement, oui.
Surtout quand on pitch, parce qu'il faut aller très vite. On a très peu de temps. Il faut aller droit au but et il faut toucher les émotions. C'est quoi les mots de votre
auditoire ? Et ça se teste autour de soi.
Ça se teste autour de soi. Et puis surtout, savoir à qui on s'adresse. Quelle est leur problématique à eux ? Quels sont leurs mots MAUX et utiliser leurs mots MOTS.
Un dernier mot pour conclure cet épisode de prise de parole, Mélanie.
Si je devais résumer, pour prendre la parole, ce qui est important déjà, c'est de s'accepter, d'apprendre à s'aimer soi-même, et puis ensuite vraiment faire des petites actions. Ce n'est pas parce qu'une personne elle a réussi en commençant à faire des vidéos que ça va marcher pour toi. Juste adapte en fait, toi, avec quoi tu es à l'aise, si tu es plus à l'aise à aller à un événement.
Ne te compare pas, tu dis aussi. Hein.
Ouais, voilà, ne te compare pas, quoi. L'idée, c'est vraiment pas de se comparer et de s'inspirer un peu de ce qu'il y a autour et puis de tester des choses. Tester, ça va peut-être pas marcher. Peut-être que demain, tu vas aller à un événement, tu vas parler à personne, comme l'avait dit Clémentine, mais c'est OK. Peut-être que tu vas faire une vidéo, tu vas jamais la publier et c'est OK. L'important, c'est juste de commencer à passer à l'action, de prendre un petit peu en confiance et puis d'y aller, quoi.
Et c'est un jeu. Jean-Corentin.
Moi, ce que j'aime bien dire là-dessus, c'est étudier, observer, pratiquer. Étudier, lire des livres, se faire accompagner, se former pour apprendre les méthodes, voir ce qui fonctionne. Observer, parce qu'on apprend beaucoup en voyant ce que font les autres, que ça soit des politiques, que ça soit des journalistes, des podcasteurs, que ça soit d'autres entrepreneurs. Maintenant, on a plein d'émissions, on peut voir des pitchs, etc. Mais observer pour voir à la fois ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est important de savoir ce qu'on veut reproduire et ce qu'on ne veut pas reproduire. Et pratiquer, parce que c'est comme la peinture. Je peux lire tout ce que je veux sur la peinture, je peux regarder toutes les plus belles œuvres de la peinture. À un moment donné, si je veux devenir peintre, il faut que je prenne un pinceau. Donc il faut pratiquer, il faut s'exercer. Et donc, ces trois-là qui vont se compléter, étudier, observer, pratiquer.
C'est très concret. Clémentine.
J'ai envie de dire aussi une conclusion en trois points.
Très structurée, cette émission.
Ouais, très structurée. Le premier, c'est croyez en vous. Ayez confiance en vous.
Oh, mais ça, on l'entend beaucoup, Clémentine.
Ouais, mais je trouve que c'est hyper important parce que si tu ne crois pas en toi, le jour où on te dit c'est pas bien ce que tu fais et que tu t'arrêtes, ça s'arrête, tout s'arrête. Alors que, tu vois, par exemple, quand Walt Disney, il s'est fait renvoyer à 18 ans parce qu'il n'était pas créatif, s'il n'avait pas cru en lui, tu n'aurais jamais vu Pocahontas. Tu n'aurais jamais vu Blanche-Neige. Non, mais c'est important. Heureusement qu'à 18 ans, il a cru en lui. Échouer et recommencer. Et c'est pas grave parce qu'en fait, ce n'est que de l'apprentissage. Et ça peut faire peur, échouer, parce que je trouve que c'est très français. On a peur, il faut toujours être parfait. Alors que non, en fait, il faut tester des choses. On se prendra plein de gamelles. Mais
on relativise, c'est
ouais,
pas grave.
Exactement, il faut continuer. Et le dernier, c'est vos faiblesses, vos failles, vos vulnérabilités sont vos plus grandes forces.
Et j'irais même plus loin, je dirais même vos qualités.
Mais oui, je suis totalement d'accord. Souvent, on a tendance à se dire « Ah, j'ose pas dire ça ». Et en fait, c'est un lieu commun. Ça va fédérer.
Le dernier mot pour Romain.
Alors, je vais encore une fois défendre mon côté, comprendre la psychologie humaine. Quand on comprend la psychologie humaine, on comprend comment les autres pensent et raisonnent. Parce qu'eux, ils vont prendre des décisions sur nous. C'est eux qui vont décider. Notre vie dépend des autres. Quand on comprend la psychologie humaine, on comprend comment on pense. Du coup, on peut même transformer nos idées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, image mentale. Comment je vais la rendre ? Hop, activer un 2+2 et activer des émotions.
Merci à tous les quatre. J'espère que cet épisode aura fait réfléchir les auditeurs en se disant effectivement, il faut que je prenne la parole. Et prendre la parole, c'est très concret. Et prendre la parole, c'est avant tout aussi un jeu. Et il faut prendre confiance, s'y essayer et comprendre la psychologie humaine. J'aime beaucoup cette idée parce que ça permet aussi de se rassurer. Ah ouais, ça marche comme ça. Finalement, c'est pas si mystique que ça. Merci beaucoup d'avoir écouté le 5e épisode de la saison 3 du podcast des indépendants sur BFM Business. Je vous rappelle qu'on se retrouve un mercredi sur deux. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.